10 minutes avec.
Radio Grenouille, 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec.
10 minutes avec Michel Ballard, professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne. Michel Ballard qui intervient dans le cadre d'une conférence intitulée « Les croisades, facteurs de paix en Europe » à l'occasion des journées de l'histoire de l'Europe à Marseille. Bonjour Michel Ballard.
Bonjour.
Alors quand est-ce que le concept de guerre sainte apparaît ?
Alors le concept de guerre sainte apparaît dans la seconde moitié du XIe siècle à partir de la formulation de guerre juste faite par saint Augustin. C'est le pape Alexandre II puis Grégoire VII qui ont transformé en quelque sorte le concept de guerre juste en guerre sainte. Et la définition de la guerre sainte, c'est une guerre qui est décidée par la papauté, lancée par la papauté, à l'occasion par exemple d'un concile, pour reprendre des biens estimés injustement usurpés par les infidèles, c'est-à-dire à l'époque par les Sarrasins.
Pouvez-vous nous expliquer le concept de guerre juste et la différence avec le terme de guerre sainte ?
Alors, la guerre juste définie par saint Augustin répond à différents critères, c'est-à-dire d'abord que ce n'est pas au chrétien lui-même de se venger de quelqu'un qui aurait usurpé ses biens, c'est uniquement le pape ou les souverains qui peuvent décider de la guerre. Donc l'autorité du prince ou du pape s'impose. Deuxièmement, la cause doit être juste, c'est-à-dire qu'il s'agit de reprendre des biens qui ont été spoliés, et l'intention doit être droite, c'est-à-dire que la guerre ne doit pas se dérouler pour du butin ou du pillage, mais elle doit, si vous voulez, répondre à l'objectif, à savoir reprendre des biens injustement acquis par l'infidèle.
Par rapport justement au titre de votre conférence, comment peut-on assimiler les croisades à la notion de paix ?
Je rappelle que dans la définition de la conférence, il y avait un point d'interrogation qui me paraît tout à fait essentiel. C'est-à-dire, les croisades ont-elles été un facteur de paix en Europe ? C'est le point d'interrogation final qui est extrêmement important. Donc j'ai essayé de faire la balance entre, d'une part, les violences, les exactions, les massacres qui sont bien connus et qui se sont déroulés à la fois dans la péninsule balkanique, en Espagne, en Anatolie, en Syrie-Palestine, et d'autre part, les quelques occasions, si vous voulez, de pacification que la papauté ou des souverains ont promu à l'occasion de la croisade. Et il est certain que ma conclusion, ça a été que, évidemment, le poids des exactions l'emporte sur les bienfaits de la croisade, si l'on peut parler de bienfaits de la croisade, et que le seul élément extrêmement positif de la croisade, c'est justement l'entrée des masses dans l'histoire et la prise de conscience de la chrétienté comme unité sous l'égide de la papauté.
Et croisades et violences vont-elles de pair ?
Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de violences à l'occasion des croisades. La seule qui est échappée quelque peu à ce cycle de violences, c'est la croisade de Frédéric II, dans la mesure où Frédéric II, par le traité de Jaffa de 1229, avait obtenu la restitution de Jérusalem à la chrétienté sans verser une goutte de sang. Mais enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, d'exceptionnel, et qui ne s'est pas beaucoup répété à travers toute l'histoire.
Justement, quelles sont les indications que l'Église donne aux chevaliers ?
L'Église veut rendre les chevaliers facteurs de paix, et ceci bien avant la croisade, c'est-à-dire dès l'institution de ce que l'on appelle les institutions de paix, paix de Dieu, trêve de Dieu, qui datent ou bien de la fin du Xe siècle ou du début du XIe siècle. Donc l'Église s'est efforcée, si vous voulez, de réprimer la violence féodale en faisant des chevaliers des serviteurs de la chrétienté, en particulier par le rite de l'adoubement que l'on voit se généraliser à la fin du XIe siècle et qui représente le moment où le chevalier chrétien, si vous voulez, refuse toute violence injuste.
Et à partir de quelle date commence la première croisade et qu'est-ce qui la motive ?
La première croisade est lancée par le pape Urbain II au Concile de Clermont en novembre 1095. Le pape Urbain II est venu en France non pas pour lancer la croisade, mais il est venu dans une France où le roi Philippe était excommunié pour avoir changé de femme un peu trop brusquement. Et le pape était surtout venu pour combattre les deux maux qui sévissaient dans l'Église, c'est-à-dire le nicolaïsme, à savoir le mariage des prêtres, et le concubinage des prêtres, et la simonie, c'est-à-dire la vente des sacrements. Deux des maux qui ont été dénoncés par la papauté réformatrice du XIe siècle. Et ce n'est qu'à l'extrême fin du Concile de Clermont, où ces grands problèmes ont été débattus, que le pape a lancé cet appel aux chevaliers de l'Occident pour qu'ils aillent secourir leurs frères d'Orient et reprendre Jérusalem aux Sarrasins, Jérusalem considérée comme étant l'héritage de la chrétienté.
Et quelles ont été les répercussions de ces croisades ?
Si l'on prend la première croisade, les répercussions ont été considérables, puisque l'on voit se former des troupes de gens du peuple qui, à la suite de prédicateurs populaires comme Pierre l'Ermite, vont de village en village en demandant « Est-on arrivé à Jérusalem ?» Et puis l'année suivante, en 1096, on voit se former les croisades dites des barons, c'est-à-dire des réunions de chevaliers provenant de différentes régions de la France d'alors, et qui partent les uns par l'Italie ou par la péninsule balkanique vers Constantinople, où se réunissent toutes ces troupes de chevaliers pour se diriger vers Antioche et de là vers Jérusalem, avec comme conséquence la prise de Jérusalem en juillet 1099.
Et comment les croisades ont évolué dans leur manière d'appréhender la guerre ?
Alors, c'est une question un peu délicate. En ce qui concerne la définition des croisades, il faut se reporter aux grands textes pontificaux, comme la bulle Quantum Predecessores de 1145 ou le Concile du Latran de 1215. La papauté a considéré la guerre comme juste à partir du moment où l'infidèle en voulait, si vous voulez, à l'héritage de la chrétienté, que ce soit au niveau de la foi, comme dans le cas des hérétiques, comme dans le cas des albigeois, ou bien des territoires qui étaient considérés comme revenant directement à la chrétienté, comme c'était le cas des lieux saints de la Syrie palestine.
Et combien de temps vont durer ces croisades exactement et comment vont-elles prendre fin surtout ?
Alors, c'est une question un peu délicate. On reconnaît d'habitude 8 croisades officielles, mais bien évidemment, il y a eu des expéditions plus limitées qui ont entrecoupé ce cycle des 8 croisades officielles. Les croisades ont eu aussi une succession avec les ligues formées par la chrétienté au cours du XIVe siècle et du XVe siècle, ligues contre les Ottomans, et l'on rappellera que jusqu'en plein cœur du XVe siècle, la papauté a promu des croisades, surtout après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Des croisades ont été de nouveau promues par la papauté, mais sans qu'elles aboutissent à quoi que ce soit, sinon à des luttes partielles, limitées, régionales, contre les Turcs.
Et justement, les croisades sont-elles le seul fait des papes ?
Non, il faut dire que des souverains ont pris l'initiative de la croisade. C'était le cas en particulier de Louis VII qui se repentait de l'exécution d'un certain nombre de chrétiens brûlés dans l'église de Vitry. C'était le cas aussi de Saint Louis qui avait fait le vœu de croisade par lui-même sans qu'on lui demande de partir à la suite d'une maladie. Donc l'initiative vient à la fois du pape le plus souvent, mais également de de souverains et même de princes, puisque la quatrième croisade a été promue par des chevaliers chrétiens en 1200, à partir du tournoi d'écrit en 199 jusqu'en 1204.
Dernière question, de quel profil l'Occident a-t-il joui justement de ces croisades ?
Le seul fruit de la croisade, ce n'est pas, comme le disait Jacques Le Goff, l'abricot ou les jeux d'échecs, mais je crois que le fruit de la croisade, c'est surtout l'affirmation de la puissance de la papauté sur le monde chrétien et le fait que la chrétienté se reconnaît unie sous l'égide de la papauté. C'est à peu près le seul fruit positif que l'on peut accorder aux croisades.
Merci beaucoup, Michel Ballard.
Je vous en prie.
C'était 10 minutes avec Michel Ballard, professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne sur Radio Grenouille.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...